sûr.
Je le savais.
Eureka.
Eureka!
3h40, c'est le nombre d'heures que les Français et les Françaises passent chaque jour devant leur télévision. 3h40 à regarder la télé, à moins que ce ne soit elle qui nous regarde. En 1950, moins d'1% de la population française possède un poste et il n'existe qu'une seule chaîne. Aujourd'hui, je vous laisse le loisir de toutes les recenser. On dit parfois qu'au sein des foyers, elle a remplacé le feu autour duquel on se rassemblait et que l'on contemplait avec le même pouvoir hypnotique. Peut-être qu'avec elle, nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'humanité. Télévision, les pieds dans le paf, c'est notre invention du jour, une invention qui crève l'écran. Bienvenue dans Eureka. Et pour retracer l'histoire de cette étrange lucarne inventée il y a moins d'un siècle, nous avons la joie de recevoir, non pas dans les studios de Cognac G, mais en direct de France Culture, Philippe Levrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auteur d'une histoire de la télévision, rêve des ingénieurs et jouet des politiques aux éditions L'Armaton. Nous sommes également en ligne avec Isabelle Goyard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes et autrice de la télévision Histoire d'un objet de consommation 1945-1985. Et pour commencer, écoutons d'abord la voix d'un des magiciens du petit écran, Jean-Christophe Averty, en 1968.
Quand vous regardez un journal ou une revue ou une gravure, même un Dürer ou un Birdsley, enfin, des gens qui ont avant fait du noir et blanc, ils ont imprimé leur dessin en tenant compte des plages blanches et des plages noires pour donner un effet visuel, pour frapper les spectateurs, pour que ça leur saute à la figure. Ou bien celui qui regardait leur tableau ou leur œuvre. J'ai donc fait pareil. C'est-à-dire qu'il faut immédiatement frapper les gens, car la télévision, c'est un tableau vivant chez soi. Il faut immédiatement frapper le spectateur chez lui, lui donner une grande gifle esthétique ou plastique dans la figure.
Jean-Christophe Averty a déployé toute l'inventivité de ce nouveau mode d'expression qu'a été la télévision. Mais avant que la télé nous saute à la figure, avant même son élaboration technologique, à partir de quand a-t-on commencé à rêver, à penser la télévision, Isabelle Goyard ?
On y a pensé dès l'Antiquité. Un certain nombre de penseurs de l'Antiquité ont imaginé la télévision. C'est en particulier le cas de Lucien de Samosate, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui imagine une population extraterrestre qui disposerait de miroirs magiques pour voir à distance depuis, enfin, une population qui vivait sur la Lune et qui pouvait voir à distance. Et puis, par la suite, au Moyen-Âge, puis jusqu'à Jules Verne, on a imaginé la télévision jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de concret dans l'entre-deux-guerres.
On retrouve cette idée du mythe du miroir magique également, hein, Philippe Levrier.
Oui, absolument. Le miroir magique, c'est un instrument qui permet non seulement de voir à distance, c'est-à-dire de posséder le don d'ubiquité, mais parfois également de voir dans l'avenir. Et évidemment, de l'Antiquité, comme le dit Isabelle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est un pur rêve, une pure utopie. Ça commence à devenir une presque réalité à partir du dernier quart du XIXe siècle. C'est l'invention du téléphone et la découverte de certaines propriétés de certains matériaux qui permet d'entrevoir la possibilité d'inscrire ce rêve dans la réalité.
Oui, alors Isabelle Gaillard l'évoquait, hein, Jules Verne a aussi imaginé la télévision.
Alors Jules Verne, c'est une nouvelle, d'ailleurs on l'attribue à Jules Verne, mais on n'en est pas tellement sûr, qui s'intitule « La journée d'un journaliste américain », qui est écrite en 1889, année de l'inauguration de la Tour Eiffel, où il décrit la vie de Francis Bennett, qui dîne avec sa femme, lui est à New York, elle est à Paris. Il assiste à une représentation d'opéra. Il assiste également à une opération chirurgicale, absolument une prouesse extraordinaire consistant à tenter de ressusciter un mort. Bref, il utilise le téléphone, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle, un peu comme on utilise Internet aujourd'hui, c'est-à-dire un moyen de se connecter sur l'ensemble du monde. Et il n'imagine pas vraiment la télévision comme le média dans lequel nous avons baigné depuis des décennies. Mais il y a aussi un autre visionnaire qui a été à la même époque très pertinent, c'est Albert Robida, dans son livre « Le XXe siècle », qui décrit, alors c'est plus un miroir magique, c'est un cristal posé au-dessus de la cheminée, et lui décrit de manière très frappante le système comme un boîtier qu'on raccorde au téléphone, c'est-à-dire il invente la box, et on s'abonne.
Visionnaire, en effet. Alors, comme voilà. Souvent, la science-fiction, c'est l'école buissonnière de la science. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'à la fin du 19e siècle, l'Académie des sciences avait explicitement dit qu'on ne pourrait jamais transmettre des images par l'électricité, Philippe Levrier.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à surmonter, quand même. Il y avait un premier problème consistant à transformer la lumière en électricité. Un deuxième problème consistant à transformer une image à deux dimensions mouvantes en un signal unique. Un troisième problème qui consistait à transporter sur un réseau de transmission cette image. Et donc tout ça restait à régler et à cette époque-là, on n'apercevait pas les technologies permettant de les régler. Elles se sont dégagées au fur et à mesure par des découvertes inopinées ou par le travail acharné de bricoleurs ou d'inventeurs. Et c'est un processus qui a été très long puisqu'il s'est étalé de 1875 à peu près jusqu'à l'immédiate avant-guerre. L'immédiate avant-guerre, on peut dire que le système de la télévision tel que nous l'avions connu était stabilisé. Mais voilà, ça a pris plus de 60 ans.
Oui, il me semble qu'il y a eu trois séries de découvertes nécessaires pour l'invention de la télévision, Isabelle Gaillard.
trois séries de découvertes nécessaires pour l'invention de la télévision. Je m'attendais pas à cette question.
ou Philippe Levrier, si vous êtes plus à l'aise sur ces questions.
Oui, je vais venir à votre secours, Isabelle. Et donc, la première découverte, c'est la découverte qu'un certain matériau qui s'appelle le sélénium réagit à la lumière sous forme électrique, sa résistance, c'est-à-dire sa capacité à transporter du courant varie. Et donc c'est le premier élément d'une caméra. Il faut transformer la lumière en électricité. Le sélénium, cette caractéristique du sélénium est découverte de manière totalement inopinée par un garçon qui s'appelle Willoughby, qui est ingénieur à la station d'arrivée d'un cop sous-marin en Irlande et qui constate que ses cadrans bougent quand la lumière varie dans sa cabane. Alors le sélénium, c'est la première idée et c'est là-dessus que les précurseurs vont essayer de travailler pour monter un système de transport de l'image à distance sur le modèle du téléphone. Le téléphone a été inventé en 1876, la découverte de Willoughby c'est 1873, et donc les précurseurs vont essayer de combiner tout ça pour transporter l'image, voire à distance par l'électricité, comme disent les anglo-saxons, ne va pas vraiment réussir, parce que parmi tous les problèmes que j'ai cités, il va en rester deux, qui sont l'analyse de l'image, une analyse correcte de l'image, et la transmission de l'image.
Il y a aussi je me tourne à nouveau vers vous, Isabelle Gaillard, la part de la radio également dans l'invention de la télévision et dans ses tout prémices, dans ses tout premiers instants.
Alors la part de la radio, effectivement, dans la transmission du son, et puis effectivement dans le cas des constructeurs de téléviseurs sur lesquels j'ai travaillé après 1945, ce sont des gens qui effectivement étaient déjà dans les technologies de la radio avant-guerre, et donc qui se sont tournés ensuite vers les technologies de la télévision. Et c'est vrai que la radio a aussi beaucoup inspiré la télévision dans ses programmes, à la fois en France, mais aussi aux États-Unis, où beaucoup des productions radiophoniques sont devenues ensuite des productions télévisuelles. Donc c'est vrai que la radio, d'un point de vue technologique, a inspiré évidemment la télévision, mais elle l'a aussi inspiré dans ses programmes. On a beaucoup parlé dans les années 50 de la radio à images. Pardon.
Ah non, je vous en prie, les années 50, nous y arriverons au fur et à mesure de cette heure. Par rapport à ces premiers précurseurs, il faut donc attendre les années 20 pour entrer dans une phase d'expérimentation. Et là, on rencontre un certain John Logie Baird, Philippe Levrier. Qu'est-ce que fait justement cet inventeur? Qu'est-ce qu'il parvient à faire?
Eh bien, la radio, effectivement, était absolument nécessaire au développement de la télévision, parce qu'un signal de télévision, même très rudimentaire, comme on savait le faire au début du XXe siècle, c'est-à-dire une trentaine de lignes. La télévision de l'après-guerre, c'est 625 lignes ou 819 lignes. Donc, ce qui mesure la finesse de l'image, avait absolument besoin d'un support de transmission suffisamment large. C'est la radio qui l'a apporté. Baird, qui était un Écossais qui avait fait des études de génie électrique et de génie mécanique, a repris une innovation d'un Allemand, Paul Nipkow, qui avait inventé un disque, une sorte de grand disque perceptron en spirale qui permettait de résoudre le problème de l'analyse de l'image. On faisait tourner ce disque devant l'image à transmettre et ces trous parcouraient des cercles concentriques et il suffisait de mettre une cellule photoélectrique, donc un sélénium ou une cellule photoélectrique plus moderne, pour récupérer ligne à ligne la valeur de lumière. Baird, qui était un inventeur, mais c'était aussi un entrepreneur qui avait beaucoup cherché à faire fortune. Il avait vendu des chaussettes, il avait vendu des savons, il avait dirigé une usine de confiture à Trinidad et Tobago. Et il a découvert que le disque de Nipkow et la radio pouvaient se marier. Et il a commencé à faire ses expérimentations au début des années 20. Alors on dit que c'est le premier qui a réalisé des démonstrations en 1925. Bon,
27 janvier 1926, a priori date historique.
Dans les magasins Selfridges.
Ah là, c'est la première démonstration d'une télévision animée à la Royal Institution de Londres.
Oui.
Sous les yeux ébahis des scientifiques et journalistes de l'époque.
Oui.
Quelles sont ces premières images qui sont montrées à cette époque-là dans ces premières démonstrations?
Ce sont des petites vignettes en noir et blanc qui ont une toute petite définition. Baird fera plus tard une démonstration en 1930 à Paris au théâtre de l'Olympia et un journaliste présent dira que le public sifflait chaque fois qu'apparaissait ce fantôme boursouflé sur l'écran. C'est-à-dire, c'est évidemment comparé au cinéma, ça n'avait rien à voir. C'était d'une qualité totalement inférieure. Mais c'était les premières. Il y avait un Américain qui avait réussi, Charles Jenkins aussi. Toujours à base du disque de Nipkow. Et puis, si vous interrogez un Allemand, il vous citera d'autres noms. Il vous citera Mihaly, il vous citera Carolus. Enfin, voilà. C'est toute une époque d'effervescence entre 1925 et 1930. Il y a des Français aussi, ne les oublions pas. Il y a René Barthélémy, Henri de France, grâce à la radio, en réalité, on débloque la question de la télévision qui était bloquée par l'obsession de la faire passer sur le fil du téléphone, ce qui était effectivement impossible.
Isabelle Gaillard, la télévision mécanique, on vient de l'évoquer, hein, fut donc un flop à ce moment-là.
Alors, elle fait un flop, c'est vrai que, comme l'a rappelé... Monsieur Lévrier, il y a aussi quand même une dimension commerciale du côté de John Logie Baird qui fait qu'en Angleterre, la télévision s'est quand même beaucoup mieux développée à la fin des années 30 que dans d'autres pays. Il y a à peu près 20 000 postes qui sont vendus à la fin des années 30 en Angleterre. On doit être à peine à une centaine en France où le démarrage des émissions expérimentales date de 1935. Hein, mais c'est vrai qu'à la télévision mécanique a succédé une télévision beaucoup plus de bien meilleure qualité qui était la télévision électronique, qui a démarré notamment aux États-Unis grâce au brevet d'un émigré russe qui s'appelle Vladimir Zvorykin. Alors là, de la même façon, il n'y a jamais une seule personne qui est à l'origine d'une invention. Et en même temps que Vladimir Zvorykin, il y a Philo Farnsworth qui a aussi développé une technologie de même type. Hein, et donc qui a permis d'imposer en quelque sorte la solution électronique qui est plébiscitée dans les années 30 et qui va devenir la solution adoptée après 1945.
Amor, amor, télévision.
Amor, amor, télévision.
Tu es mon amour, ma passion.
Tu es mon amour, ma passion.
Quand tu me fais ton cinéma, tu veux me garder près de toi.
Oui, près de toi.
Je sens que ton œil me cyclope.
Non, 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 non.
France Culture.
Paralyse m'enveloppe.
Non, 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 non.
Eureka.
Je t'apparais, tiens, dans le noir, nous ne faisons qu'un.
Natacha Triou.
Nous ne faisons qu'un.
Ma radio dit, ma radio dit, ma radio diffusion. Ma télévie, ma télévie, ma télévision.
L'industrie naissante de la télévision mécanique s'effondre en 1933, et vous venez de l'évoquer, Isabelle Gaillard, la télévision électronique prend la relève, c'est notre télévision dite analogique, avec en effet au cœur de cette invention l'inventeur Philo Farnsworth. Alors, Philo Farnsworth, je veux bien qu'on en parle un peu plus longuement ensemble, Philippe Levrier. C'est une sorte de géotrouve-tout, il me semble.
Oui, Philo Farnsworth, c'est un personnage extrêmement singulier. C'est le fils d'un fermier de l'Idaho. Qui a fait des études correctes mais pas universitaires et qui s'est passionné pour les questions électriques, radioélectriques, la radio, dit-on, en découvrant dans le grenier de la ferme toute une série de magazines scientifiques et d'ouvrages. Alors d'autres racontent que c'est en faisant son labour qu'il a eu l'intuition des lignes qui devaient décomposer l'image. Je ne sais pas si cela relève du mythe ou pas, peut-être. Et Philo Farnsworth, adolescent, s'acharne à résoudre le problème de la télévision. Et remarquablement, il imagine une caméra électronique basée sur le tube à vide, le tube cathodique, qui a été inventé précédemment par un garçon qui s'appelle Braun, qui a réussi à domestiquer les électrons à l'intérieur du tube à vide, ce qui était le premier pas. Et Farnsworth est un solitaire qui n'est raccroché à aucune compagnie, qui a du mal à trouver des financiers, qui en trouve quand même quelques-uns, il travaille seul. Et il réussit à développer cette caméra électronique qu'il appelle l'image dissector. Alors l'image dissector a une antériorité par rapport à l'iconoscope de Svorikin dont Isabelle vient de parler. L'image dissector... On va pas le décrire, c'est très compliqué. Mais en quelques mots, c'est un système dans lequel une image électronique est formée à partir de l'image optique et on déplace l'image électronique en bloc dans le tube. Ça a un inconvénient, c'est que ça a une sensibilité très faible. Mais c'est quand même la première caméra électronique. Svorikin, lui, travaille chez RCA et évidemment, il va s'en suivre un duel, une bataille, une rivalité tout au long du début des années 30, qui va aboutir à ce que Philo Farnsworth jette l'éponge et Svorikin devienne dans l'histoire l'inventeur de la caméra électronique.
Alors plus précisément, comment ça fonctionne la télé cathodique, de la création de l'image jusqu'à la réception sur l'écran?
Ah
Le nœud de la guerre.
Alors, la caméra... Alors, un système de télévision, c'est une caméra qui transforme l'image en signal électrique, un réseau de transmission qui transporte le signal électrique et un récepteur au bout. C'est très simple.
Dit comme ça, oui.
Alors, la caméra électronique... transforme l'image optique grâce à un système de cellules photoélectriques minuscules. Dans le premier iconoscope de Svorikin, ce sont des pastilles d'argent, des gouttelettes d'argent qui sont recouvertes de césium. Et les électrons qui viennent frapper ces petites gouttelettes crée des condensateurs, c'est-à-dire crée des charges électriques sur chacune de ces gouttelettes, et un rayon cathodique vient décharger ces gouttelettes. Elles sont chargées à proportion de la lumière qu'elles ont reçue. Donc là, on transforme la lumière en électricité. Ensuite, il faut transmettre le signal. Alors, comme je l'ai dit, le téléphone ne suffit pas. On commence avec la radio, mais la radio, bien vite, ne suffit pas. Parce que la quantité d'informations contenues dans une image est proportionnelle au nombre de lignes. Or, comme l'objectif, c'est d'avoir une qualité qui s'approche de celle du cinéma, il faut augmenter le nombre de lignes, ça sera une obsession. C'est d'ailleurs ce qui va condamner la télévision mécanique, qui n'est pas capable d'aller au-delà de 200 lignes, beaucoup au-delà de 200 lignes. Et donc, Quand on veut transmettre beaucoup de lignes, une image définie, il faut avoir une grande capacité de transmission. Il faut donc utiliser des fréquences qui ne sont pas celles de la radio, mais qui sont des fréquences qui sont au-dessus de la radio, dans des mégahertz. Alors ça devient compliqué, n'est-ce pas?
Tout va bien.
Qui sont des fréquences qui représentent plusieurs millions de vibrations par seconde d'une onde électromagnétique. Alors que la radio, c'est plusieurs centaines de milliers. Et puis à partir de là, il faut construire un récepteur qui fait le travail inverse. Donc c'est assez simple, un tube cathodique qui reçoit le signal électrique et qu'il projette sur un écran enduit de phosphore grâce à un canon à électrons. Et le canon à électrons qui balaye l'écran au rythme des lignes qui ont servi à l'analyse à l'émission, eh bien, fait apparaître les points lumineux, plus ou moins blancs, plus ou moins noirs, et l'image se reconstitue. C'est facile.
Là, on est sur des tout petits écrans où le format est déjà là. Hein. C'est déjà tout de suite le format portrait rectangulaire également, hein, Isabelle Gaillard, sur ces tout premiers écrans de télévision cathodiques.
Ces tout premiers écrans de télévision sont minuscules. Le tube cathodique, au départ, il est rond. Et c'est vrai que les premiers postes de télévision, c'est un écran d'une vingtaine de centimètres qui est perdu dans un poste de radio très, très gros, comme les postes de radio de l'époque. Et donc, on voit quand même pas grand chose. Mais c'est lié aussi, effectivement, sans doute, à la relativement faible définition de l'image.
Alors, c'est en 1927 que ce fameux Philo Farnsworth produit la première image avec son tube cathodique. C'est la première démonstration officielle. Quelle est la réception, quelle est la première réception de ces images, Isabelle Gaillard?
Des images de Philo Farnsworth?
Oui, de cette télé cathodique naissante.
Je crois que je vais laisser la réponse à mon...
Il faut bien voir que ces démonstrations sont extrêmement rudimentaires.
Oui, oui, mais quel est l'effet?
Alors, le public est évidemment intéressé, mais il est à la fois intéressé et déçu, parce que il projette l'image d'une pièce de dollar, ce qui montre très bien quelle était son intention, quand même. Il projette aussi des personnages. Alors lui, il a un format d'image vertical, il n'a pas le format d'image horizontal qu'on connaît. Il projette des images de personnages mimant des joueurs de tennis. Voilà. Donc c'est pas très spectaculaire quand même. Hein. Et d'autre part, il n'y a pas de récepteur. C'est-à-dire lui, il en est au stade de l'expérimentation, de la démonstration.
Moi qui suis trop sophistiquée, comment passer à la télé pour attirer votre attention? J'aurais dû être un canasson, Citron m'aurait sacré champion. Dans son palmarès des chansons, Guilux n'a pas toujours raison. Je suis mieux balancée qu'Anne-Marie Besson. Je ne suis pas une fillette avertie, et sa moulinette ne m'empêcheront pas d'être un jour la vedette. J'ai enfoncé des portes ouvertes histoire de faire des découvertes. Je m'appelle Berthe. Michel Arnaud dans son bureau m'a dit: j'aime votre numéro pour la téléphone des costauds. Le playboy du petit écran, Maurice Evenot, ce Don Juan, m'a proposé de m'épouser en me voyant. Roger Couder, je l'ai conquis en lui démontrant qu'au rugby, les femmes aussi, pour la mêlée, au gabarit. J'ai sacrifié mes belles anglaises pour passer à douche écossaise. Je suis là, Maria Callas française.
Berthe, comment passer à la télé 1966 à 16h25 sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention du petit écran avec Isabelle Gaillard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes, et avec Philippe Lévrier, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors nous venons de parler de la télévision comme objet de laboratoire. Comment la télévision s'est transformée en objet de consommation, puis en objet de consommation de masse, hein, puisque dans les années 30, Isabelle Gaillard, il me semble que la télévision reste encore très très peu développée.
La télévision est très peu développée, d'autant plus qu'effectivement, elle en est encore à un stade expérimental, hein, puisque les émissions régulières et expérimentales commencent au milieu des années 30. Ensuite, tout ça est interrompu par la guerre, donc la reprise se fait essentiellement après 1945. Et encore, dans le cas de la France, et dans le cas d'ailleurs d'autres pays européens, elle se fait assez difficilement parce qu'elle se fait pendant la reconstruction. Donc, autant dire que les priorités ne vont pas nécessairement à la télévision.
Philippe Levrier, le petit écran ne s'impose pas du jour au lendemain, donc?
Non, il ne s'impose pas du jour au lendemain. Il y a d'autres priorités à la sortie de la guerre. Mais le système technologique est prêt, c'est-à-dire tout ce que les inventeurs, les chercheurs, les laboratoires, les industries ont fait avant-guerre pour la télévision électronique a abouti un modèle technologique qui fonctionne. Donc on est dans des définitions qui sont de l'ordre de 400 lignes. Et donc tout est prêt à redémarrer. Ce qui manque, c'est de l'argent, effectivement. Il manque des hommes pour faire fonctionner tout ça. Et ça met un peu de temps. Ceux qui sont en avance sont la BBC, pour des raisons bien compréhensibles. Ils ont démarré en 405 lignes. Alors c'est un format qui leur sera particulier pendant de nombreuses années. La France, elle, veut avoir la plus belle télévision du monde. Pourquoi pas ? Et donc, après une bataille entre deux grands personnages de l'avant-guerre, que sont René Barthélémy et Henri de France, François Mitterrand signe un décret en 49 pour instituer 819 lignes en France, qui va poser des tas de problèmes. Mais comme ça, nous aurons la fierté d'avoir cette plus belle télévision du monde. Elle démarre en novembre 49, mais il faut construire un réseau, parce que les fréquences dédiées à la télévision sont des fréquences très courtes, qui ont une portée qui n'est pas très grande, et donc il faut parsemer le territoire d'émetteurs pour arriver à atteindre toute la population. Et ça se fait au rythme des crédits, qui sont chichement débloqués.
En 1935, on fait installer tout de même un nouvel émetteur au sommet de la Tour Eiffel.
Ah oui, mais ça c'est Mandel, c'est Georges Mandel. Georges Mandel a découvert la télévision qui était la télévision mécanique. Hein. Enfin, c'était juste le passage, mais c'était la télévision mécanique. Il se prend d'un goût extrême pour cette télévision. Il veut absolument la développer. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui, comme tout ministre de la Troisième République. Il rencontre René Barthélémy et il demande à René Barthélémy « Qu'est-ce qu'il vous faut pour démarrer ?» Et Barthélémy, entre autres choses, lui demande un studio qui sera installé rue de Grenelle dans les emprises des PTT et il lui demande la Tour Eiffel. Barthélémy a été un des employés du général Ferrier, héros de la radiotélégraphie militaire pendant la guerre de 14. Il connaît bien la Tour Eiffel. Mandel lui donne la Tour Eiffel, on installe des émetteurs à Tour Eiffel. C'est pour ça qu'on peut dire que Barthélémy est le père de la n'est pas l'inventeur de la télévision, mais c'est le père de la télévision française. Il a jeté les bases de la structure fondamentale avec la Tour Eiffel, évidemment. La télévision est toujours à la Tour Eiffel. Et Studio Parisien. Et Mandel disparaît, le Front Populaire le remplace. Barthélémy tombe un peu en disgrâce. Et d'ailleurs, il ne s'en remettra pas vraiment sur le plan technique. Voilà. Alors, en 35, c'est le chant du cygne de la télévision mécanique.
Oui, avant notre télévision cathodique. Voilà. Alors, Isabelle Gaillard, on peut dire, hein, vraiment que le véritable début de la télévision, c'est après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que difficilement, dans les années 50, il faut développer le réseau. Il faut arriver à faire des programmes et on veut financer des programmes sur la redevance, donc sur la vente de récepteurs, sauf qu'on ne peut pas vendre des récepteurs s'il n'y a pas de programme. Enfin bref, c'est parfois le chat qui se mord la queue. Donc on est obligé de financer la télévision via la radio, donc c'est très difficile. Et effectivement, les crédits arrivent relativement tard, pour financer notamment le réseau d'émetteurs, pas avant 1953-1954, puis 1956-1957. Donc vraiment, on peut pas dire qu'à la fin des années 50, la télévision dispose d'un réseau national, encore. Hein. Et donc vraiment, l'essor de la télévision et sa transformation en médias de masse, ça va être les années 60. Mais c'est vrai que ça, le début du marché, c'est les années 50. Et bon, c'est là qu'il y a énormément aussi d'espoir et de rêves qui sont mis dans l'outil télévisuel par ceux qui le mettent en place dans les années 50.
Mais alors, avant de devenir justement ce média de masse dans les années 60, au moment de cette période de mise en place, à partir de 1949, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision ?
On regarde déjà beaucoup de choses, même si il y a très peu d'heures de programme, que ces heures de programme sont parfois très éparses, que parfois il y a des pannes également. Mais le journal télévisé est créé en 1949, mais avec des bouts de ficelle parce qu'on dispose pas de beaucoup de moyens. Donc on fait beaucoup de récupérations, des actualités télévisées, etc. Il y a aussi beaucoup de jeux qui étaient avant à la radio et qui deviennent télévisés, qui sont parfois retransmis en direct depuis les musicals, autour de Jean Nohain, autour d'Henri Spade. Il y a déjà aussi du sport à la télévision, et on en mesure d'ores et déjà, dès les débuts de la télévision, le potentiel, hein, notamment la retransmission de l'arrivée du Tour de France en 1948, hein, où déjà la télévision française va faire la promotion dans les cafés de ses propres programmes pour essayer de pousser les gens à acheter des téléviseurs. On a déjà effectivement donc des émissions de variété, des jeux, du direct, hein, ce qu'on a beaucoup dit qui avait lancé la télévision, c'est le couronnement de la reine d'Angleterre en juin 1953, hein, qui a fait vendre énormément de téléviseurs et qui a inquiété les pouvoirs publics parce que on n'avait pas encore développé le réseau d'émetteurs dans toute la France. Et dans l'est de la France, en Alsace, on s'est mis à acheter des récepteurs allemands pour pouvoir recevoir le couronnement de la reine d'Angleterre. Donc on s'est dépêché ensuite d'équiper les zones de l'est pour qu'ils puissent s'équiper en téléviseur français.
Oui, ça, c'est une anecdote.
Il y avait des questions de différence de normes, hein, et le choix de la norme, la haute qualité française, est aussi un choix très politique.
Oui,
qui devait beaucoup aussi à une résistance par rapport à une certaine forme d'américanisation aussi.
Mais ce couronnement, justement, l'anecdote du couronnement de la reine Elisabeth, et tout le monde, toute la population française veut voir ce couronnement, mais le territoire n'est pas pourvu d'émetteurs, et Philippe Levrier, vous voulez réagir justement sur cette anecdote par rapport...
Oui, je voulais surtout ajouter à ce qu'a dit Isabelle que on diffuse aussi beaucoup de films à la télévision. Puisqu'on a inventé non seulement la caméra électronique, mais le télécinéma qui permet de transformer l'image du cinéma en signal vidéo, en signal de télévision. Et les acteurs du cinéma, les professionnels du cinéma, commencent à s'en émouvoir. Il n'y a pas de chronologie des médias, donc il n'y a pas de régulation. C'est très commode de passer un film à la télé, et c'est le début d'une longue histoire des rapports entre la télévision et le cinéma.
Alors vous l'évoquiez, hein, Isabelle Gaillard, il y a une date historique, le 29 juin 1949, la télé française invente le JT. Pierre Sabat, l'initiateur du premier journal télévisuel, nous raconte ce tout premier JT à frôler la catastrophe.
Comme je me souvenais de cette histoire de ballon à la radio, je voulais vraiment le faire pour l'image. Et ça a été le premier reportage du journal, le 29 juin 1949. Avec Michel Bakevitch comme caméraman dans une nacelle, nous étions quatre. Et ça s'est pas très bien passé. Il y avait beaucoup de vent. Et ce qu'on n'avait pas tellement vu, mais des hurlements nous l'ont appris très vite, c'est une ligne à haute tension. Il y a eu une déchirure dans le ballon. Le gaz s'est échappé, sur l'étincelle il s'est enflammé. Alors 1500 mètres cubes de gaz qui brûle, ça fait un très beau chalumeau. On a arrêté les trains dans la région. Enfin, on a coupé le courant partout, une véritable catastrophe nationale, comme vous voyez, premier journal, et a vu arriver les gendarmes pour nous emmener en prison, parce que qu'est-ce que c'était que ces rigolos, télévision, c'était rien, enfin, le journal télévisé, alors, inexistant, ça n'existait absolument pas. Et on en a parlé, je me souviens, le lendemain dans la presse, et j'ai même été accusé d'avoir pris mon briquet et d'avoir fumé ma pipe, et comme rien ne se passait, d'avoir jeté ma pipe dans la cheminée de gaz.
Pour provoquer l'événement.
Ouais. On fabriquait l'événement.
Le premier JT est donc un crash de montgolfière et déjà le soupçon du sensationnalisme. Alors c'est à ce moment que la télévision invente son contenu, Isabelle Gaillard. Il y a tout à inventer.
Il y a tout à inventer et il y a beaucoup de gens très, très jeunes qui débarquent à ce moment-là à la télévision, qui parfois sont des déçus du cinéma. Effectivement, Philippe en parlait tout à l'heure. Effectivement, on diffuse des films de cinéma. Il va y avoir des accords avec le cinéma pour ne pas en diffuser certains jours, comme le samedi soir. On diffuse aussi des pièces de théâtre. On a fait d'ailleurs un des grands genres de la télévision, c'est ce qu'on appelle la dramatique, c'est-à-dire c'est du théâtre filmé. Donc effectivement, la télévision s'invente, elle invente ces genres. Elle a déjà inventé le docu-fiction, elle invente la dramatique, elle met en place des documentaires, bref, elle se cherche, mais elle est pleine de rêves, et en particulier le rêve de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ces jeunes gens qui arrivent à la télévision dans l'élan de la libération, ils ont envie d'apporter beaucoup de culture à la télévision, de développer un art véritablement populaire par différence, pour se différencier du cinéma, et donc ils aiment à se présenter effectivement comme des pionniers et un petit peu à la manière de Jean Villard pour le théâtre et à expliquer qu'ils ont apporté la culture au peuple grâce à la télévision et les titres des émissions de cette époque-là en témoignent. Il y a une émission littéraire très célèbre qui s'appelle Lecture pour tous. Hein. Ceux qui animaient cette émission, hein, donc, aiment bien présenter le fait que finalement, comme à cette époque-là, la télévision était surtout développée à Paris et dans le Nord, hein, finalement, cette émission-là, qui était une émission littéraire où des auteurs venaient parler de leurs ouvrages, des auteurs plutôt connus, hein, et ben finalement, elle était faite pour les ouvriers du Nord et que grâce à cela, les ouvriers du Nord pouvaient découvrir la poésie, la littérature. Bon, en fait, c'était la culture classique, mais c'était une manière de dire que la télévision allait être un outil formidable pour le peuple et pour apporter la culture, la connaissance au peuple.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, on a peut-être tendance à l'oublier, mais il y a dans le projet télévisuel une ambition pédagogique ou même l'idée d'un, enfin, un idéal d'éducation populaire. Isabelle Gaillard.
Oui, exactement. Pierre Tchernia aime à raconter, il y a un ouvrage qui a recueilli le témoignage des réalisateurs. Les réalisateurs et puis le grand homme de télévision qui était Pierre Tchernia aimait à raconter qu'effectivement, ils étaient comme des professeurs devant une classe d'élèves. Et que finalement, comme en plus, on n'avait qu'une seule chaîne, on avait un public extrêmement captif et donc on pouvait se permettre de faire un certain nombre de choses et de transmettre, de faire des émissions qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Et pendant très longtemps, ils ont été soutenus par les directeurs de télévision. Même si le premier directeur de la télévision, enfin, celui qui est le plus connu dans les années 50, qui est Jean Darcy, a aussi quand même développé les émissions de variété, les jeux et beaucoup le direct. Mais il y avait cette ambition-là, effectivement.
Et Philippe Lévrier, sur cette ambition et sur cette notion pédagogique liée à cette télévision toute fraîchement apparue.
Oui, bah c'est le triptyque fameux. La télévision, c'est informer, éduquer, distraire. Donc ce triptyque fameux qui sera le cap que suivront les différents dirigeants de la télévision, dont Jean Darcy, effectivement, qui est le plus célèbre d'entre eux. Il sera suivi, mais il sera nuancé au fur et à mesure de l'extension des publics, de la multiplication des chaînes, qui aboutiront non pas à penser la télévision comme une offre, mais à penser la télévision comme une demande, comme la réponse de certains publics, les jeunes adultes, alors comment dit-on maintenant, on ne dit plus les ménagères de moins de 50 ans, on dit l'unité économique acheteuse ou quelque chose comme ça. Voilà, donc le passage de cette télévision de l'offre à haute ambition culturelle, intellectuelle, à une télévision plus industrielle qui cherche à répondre à la demande des publics, est liée en grande partie à l'introduction de la publicité. La publicité est introduite en 67 et à l'arrivée des chaînes privées, 84-86 en France, un peu plus tôt en Grande-Bretagne.
Alors, bah, avant d'aller justement dans les années 80, restons justement dans cette période. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur l'une des grandes inventions de la télévision, le direct.
Oui, alors le direct, ça a été effectivement... D'abord, la télévision est faite pour ça. Elle est faite pour transmettre en direct des images. Bon, c'est pas si facile parce que il faut, pour un direct, il faut installer un dispositif de prise de vue, donc de caméra, qui à l'origine était extrêmement lourd. Et donc, c'est pas si facile. L'ORTF en a fait à une époque une espèce de drapeau en réalisant des grands directs. On faisait des directs depuis le train Paris-Lille en marche. On faisait des directs depuis le fond des gouffres dans les Pyrénées. Et chaque fois, c'était présenté comme un exploit extraordinaire. Et ça l'était vraiment, d'ailleurs. Hein. Maintenant, évidemment, qu'on pourrait le faire de manière tout à fait facile, puisque les équipements se sont allégés, se sont miniaturisés, où il y a moins de directs à la télévision. Beaucoup d'émissions sont mises en boîte. Alors, il y a le sport qui est en direct, encore qu'avec le numérique, c'est plus tellement en direct. Mais ça, c'est une autre histoire. Et le direct a été, effectivement, une marque de fabrique de la télévision pendant toutes ces années.
Et qui la distingue, justement, de la radio ou de la presse écrite.
Ça le distingue de la presse écrite, pas tellement de la radio, parce que moi j'écoutais les reportages de Georges Briquet des matchs de foot à la radio.
Et vous voyez les matchs s'imprimer.
Ah mais Georges Briquet était très talentueux. Donc.
Alors Isabelle Gaillard, à propos des usages, en 1950, donc moins d'1% de la population française a un poste, ça veut aussi dire que les usages n'étaient pas les mêmes.
C'est-à-dire que les usages, effectivement, de toute façon, enfin, peu de gens connaissaient la télévision en 1950. En plus, peu de gens la recevaient. Et c'est vrai que dans ces premiers temps de la télévision, c'était très cher. Hein. Un téléviseur, ça coûtait 7 mois d'un salaire ouvrier au début des années 50. Après, ça s'est un petit peu... J'allais dire, le prix des téléviseurs a fortement diminué au fur et à mesure qu'on a développé la production de masse. Enfin, bon, ça, c'est encore peut-être une autre histoire. Mais c'est vrai que, du coup, les modalités d'écoute, au début, étaient collectives. Et donc on allait écouter, voir la télévision dans les cafés, on allait la voir dans les vitrines des revendeurs, c'est ce qui a été beaucoup dit au moment du couronnement de la reine d'Angleterre. Et puis il y a eu une expérience un peu spécifique en France, qui est liée peut-être aussi aux ambitions pédagogiques dont je parlais tout à l'heure. Et alors le triptyque qui vient aussi de la BBC, hein, du modèle de la BBC qui était « to teach, to inform and to entertain hein. ». On s'est beaucoup inspiré de ce modèle aussi pour la télévision française et pour les télévisions européennes à cette époque-là. Et donc, on a développé une expérience spécifique dans le nord de la France, qui est celle des téléclubs. C'est-à-dire que, prenant la suite, en quelque sorte, des ciné-clubs qui ne marchaient plus très bien, on s'est dit, on va développer des téléclubs. Et donc, on est allé s'installer, notamment dans les villages de l'Aisne. On a fait en sorte que des gens cotisent pour acheter un téléviseur, qu'on a installé dans les salles de classe. Et les gens qui avaient cotisé pouvaient venir voir la télévision. Et puis derrière, souvent, il y avait l'instituteur qui commentait les programmes qui venaient d'être vus. Et donc, c'est des modalités d'écoute, effectivement, qui ont contribué à diffuser la télévision, notamment dans le département de l'Aisne, qui était un département rural. Hein, et au moment où la télévision arrive, 97% des gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, ça les a. Et puis, bon, évidemment, ça a préparé l'accession au poste de télévision familiale quand on a eu l'opportunité, effectivement, d'acheter la télévision. Mais c'est vrai qu'on a des modalités d'écoute qui étaient collectives. On allait aussi beaucoup, le voisin qui avait la chance d'avoir la télévision, on allait voir la télévision chez lui. Hein. J'ai même un témoin qui m'avait raconté qu'il regardait la télévision depuis son balcon. Hein. Les voisins laissaient la fenêtre ouverte et puis on regardait la télévision. On suivait en particulier, encore à la fin des années 50, hein, on a ces modalités d'écoute, 5 colonnes à la une, qu'on pouvait suivre éventuellement chez les voisins.
Alors comment la télévision est devenue le média dominant à partir des années 60 ?
Je peux répondre ?
Ah oui, c'était cette question vous était adressée.
D'accord, oui, alors c'est devenu le média dominant parce que progressivement, effectivement, on a pu... D'abord, la télévision s'est fait connaître et puis elle est devenue plus accessible financièrement. On a développé davantage les programmes et puis il y a eu une volonté politique aussi. Enfin, j'allais dire, ça a coïncidé avec l'essor du marché et la volonté de Gaulle aussi qui en a fait son instrument, hein, son instrument politique, ce qui a été ce qui a teinté aussi la télévision de l'idée qu'elle était véritablement la télévision de Gaulle, hein, ce qu'elle était en partie, parce qu'il y avait une très forte censure politique à la télévision, mais il a contribué effectivement à en faire un outil. C'est vrai que c'est au moment des années 60 qu'apparaît une deuxième chaîne, que se développe l'offre des programmes, que la télévision devient plus accessible financièrement, donc on passe de 10% d'équipement à peu près au début des années 60 à 60% d'équipement à la fin des années 60, en 1968. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que ça devient un média de masse qui devient le principal média d'information des Français, qui supplante progressivement la radio. Parce que le média de masse dans les années 50, évidemment, c'est pas la télévision, c'est la radio. Donc, il y a une volonté politique de continuer à développer la télévision. Et puis, il y a aussi toute une partie qui est liée, effectivement, au poste lui-même. Et puis, c'est vrai que ceux qui ont la télévision, très vite, la télévision devient, j'allais dire, un personnage important dans leur vie. Hein, et donc, ils regardent très vite, beaucoup, la télévision.
Oui, hein, il y a une étude, étude sociologique que je trouve assez étonnante dans ses résultats. Hein, en 1965, 60% des paysans et ouvriers sondés admettent que leur vie a changé avec la télévision, hein, que déjà la télé change le rythme de vie, et notamment l'heure du coucher.
Oui. Jean-François Cirinelli parle de vitesse de sédimentation. Donc très vite, la télévision devient quelque chose d'indispensable pour ceux qui l'acquièrent. Donc il y a à la fois cette dimension, on accède nombreux à la télévision, mais après on la regarde beaucoup et elle devient effectivement un personnage très important dans la vie. Donc j'aime bien citer aussi il y a eu un attentat des autonomistes bretons en 1974 qui prive 350 000 personnes de télévision. Alors attentat parce que la télévision était considérée comme un instrument de l'État. Et puis les gens qui se plaignent à Télé 7 jours expliquent que c'est comme si on leur avait coupé l'eau et l'électricité. Donc ça donne la mesure de la place qu'a pris la télévision dans leur vie très rapidement.
France Culture. Eureka. Natacha Triou.
Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi.
Oh bah toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. Il fait chaud.
Ah oui, il fait chaud, oui.
Dans cette histoire du petit écran, il y a bien évidemment la révolution de la télé en couleur et puis de la télé pluraliste. Une troisième chaîne est lancée le 31 décembre 1972 et jusque dans les années 80, en France, la télévision est totalement publique. Puis, on voit un basculement avec le développement des chaînes privées, Philippe Levrier.
Oui, alors la deuxième chaîne est de 64, la troisième est de 72. Avec ces deux chaînes, on épuise la capacité des fréquences. Mais la France, qui avait adopté le 819 lignes, décide de l'arrêter. Et donc, décide de passer la première chaîne en couleur et d'arrêter le 819 lignes, ce qui libère un réseau. Alors, que faire de ce réseau? Le Premier ministre Jacques Chirac, en 75, décide qu'on ne fera pas de télévision, pas de quatrième chaîne, sur ce réseau. Voilà. Mais il y a eu une quatrième chaîne quand même, c'est Canal+. Alors l'histoire de Canal+, est compliquée. Elle relève de beaucoup de débats politiques. Mais techniquement, elle était prête. Et le concept principal sur lequel elle a reposé, c'est-à-dire diffuser à domicile des films de cinéma en les faisant payer aux téléspectateurs, est un concept qui avait été expérimenté, même exploité aux États-Unis, et qui avait été adapté par le diffuseur, c'est-à-dire par le propriétaire des émetteurs, en 1981, qui souhaitait sauvegarder son réseau. Il ne souhaitait pas que son réseau serve à autre chose, ce réseau qui allait se libérer. Donc 84, Canal+ arrive, c'est un démarrage extrêmement difficile. Au printemps 85, on envisage de l'arrêter. Finalement, ça repart. Et en 85-86, François Mitterrand, juste avant les élections, décide de lancer des chaînes privées. Donc en 3 ans, 3 nouvelles chaînes sont créées.
Le début de la privatisation, c'est un bouleversement du paysage audiovisuel français, Isabelle Gaillard ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que les chaînes privées sont apparues paradoxalement sous un gouvernement socialiste. En fait, les socialistes ont voulu faire apparaître ces chaînes privées au nom, en quelque sorte, de la liberté, parce que pendant très longtemps, il y avait eu effectivement le monopole public et de l'ORTF, puis ensuite l'ORTF éclate en 74. Mais le monopole public est préservé. C'est la droite, en fait, qui maîtrisait les ondes télévisuelles. Donc l'idée, c'était de dire on va ouvrir au privé en quelque sorte, mais avec beaucoup de limites normalement, enfin, sauf pour la cinquième chaîne qui a été confiée notamment à Berlusconi, mais avec beaucoup de limites au nom de la liberté, au nom de la liberté d'expression, etc. C'est aussi tout ce qui se passe autour des radios libres. Mais c'est vrai que, j'allais dire, le basculement, c'est Canal+, mais c'est véritablement plus que la 5 et la 6 en 85-86, c'est la privatisation de la première chaîne de télévision, c'est la privatisation de TF1 en 87 qui va vraiment faire basculer le paysage audiovisuel français dans la logique des chaînes privées, c'est-à-dire que les logiques commerciales vont véritablement s'imposer à la télévision à partir du moment où la première chaîne du pays finalement bascule dans les mains du privé et paradoxalement dans les mains d'un groupe qui est pas du tout un groupe de médias, qui est un groupe de bâtiments et travaux publics, qui était le groupe Bouygues. Et donc c'est vraiment le basculement, parce que la 5 et la 6, la 5 d'ailleurs fera faillite en 92, la 5 et la 6 n'ont pas, j'allais dire, renversé la balance avec le public. Mais la privatisation de la première chaîne, oui.
Et Philippe Levrier, à propos justement de cette bascule, où est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle révolution dans l'histoire de la télévision à ce moment-là ?
Bah, la télévision privée existe déjà dans beaucoup de pays. Donc c'est une révolution en France. Mais ça n'est pas une révolution in abstracto, c'est une adaptation d'une certaine manière de la France à ce qui se passe dans les pays étrangers. En Angleterre, c'est au milieu des années 50 que ITV, la chaîne privée, a été créée. Donc moi, je verrais plutôt la révolution dans le développement du câble et du satellite, c'est-à-dire la profusion des chaînes. Le câble et le satellite. La 5, la 6 et Canal, on reste dans la logique d'un nombre limité de chaînes. Bon, certes, certaines sont gérées de manière privée, mais le câble et le satellite apporte un changement considérable parce que c'est, premièrement, l'arrivée sur les écrans des chaînes thématiques, c'est-à-dire des chaînes qui ne sont pas organisées de manière généraliste représentant tous les genres. Donc thématique, le sport, les enfants, le divertissement, les magazines, etc. Et puis c'est l'occasion de faire payer la télévision aux téléspectateurs. Donc c'est quand même, sur le plan économique aussi, un très grand bouleversement que c'est arrivé du câble et du satellite, donc dans les années 70-80.
Isabelle Gaillard, justement, sur l'arrivée du câble et du satellite dans cette histoire du petit écran.
Alors c'est vrai qu'en France, le câble et le satellite arrivent dans les années 70, mais se développent, enfin les chaînes du câble et du satellite se développent dans les années 1990. Alors c'est vrai que c'est d'autres logiques. Après, c'est pas un marché si conséquent que ça, puisque il y a eu des grandes bagarres entre des grands groupes pour la maîtrise de ce marché, mais en définitive, à la fin, c'est quand même Canal+ qui gagne, enfin Vivendi à l'époque. Donc c'est des situations qu'on rencontre dans d'autres pays au sujet du câble et du satellite. Mais c'est vrai que ça introduit des nouvelles logiques et c'est vrai que ça fait payer la télévision. Alors que, par exemple, le paiement de la redevance fait que... comment on finançait la télévision et les programmes de télévision ? Ils étaient censés être financés par une taxe parafiscale qui s'appelle donc la redevance, qui avait été instaurée pour la radio dans les années 30, puis qui a été instaurée pour la télévision en 1949 et la radio de nouveau. Donc l'idée, c'était de financer essentiellement par la redevance. Puis ensuite, on a ajouté la publicité en 1968. Et c'est vrai que la redevance, ça correspondait absolument pas au coût réel que représentait la télévision. Et les gens avaient le sentiment, effectivement, qu'on leur devait la télévision et que c'était naturel qu'elle soit gratuite. Et puis c'est la même chose, effectivement, avec une télévision commerciale où le financement est assuré par la publicité. Donc c'est vrai que le câble et le satellite, ça implique de payer pour recevoir des programmes, comme c'est le cas aussi maintenant avec les plateformes de streaming type Netflix ou Amazon Prime.
Et justement, sur ces plateformes, un dernier mot pour conclure. On voit aujourd'hui que les audiences de la télévision linéaire, c'est-à-dire la télé classique, chutent depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une invention presque obsolète, Philippe Lévrier ?
Alors, non. Non, parce que l'idée des rêveurs, des poètes, des visionnaires, c'était quand même que l'image puisse être transmise partout dans le monde, à la volonté de chaque individu. Et ce Graal, il est accompli par Internet. Donc Internet, d'une certaine manière, réalise ce rêve. Alors maintenant, la télévision linéaire. La télévision linéaire, elle se porte pas si mal. Ce qui peut être inquiétant pour les opérateurs de télévision linéaire, c'est une certaine désaffection des jeunes. Mais au total, il reste encore... Isabelle parlait de 3 heures d'écoute. Il reste encore une quantité d'écoute quand même assez phénoménale par jour. Et pour l'instant... Alors, à part le cas particulier de la 5 et la cité... On n'a pas vu disparaître de télévision linéaire puissante. Peut-être que ça arrivera. Ce qui peut arriver aussi, c'est que certaines télévisions linéaires abandonnent un support, comme la TNT, par exemple. Voilà, ça peut arriver. Mais la radio n'a pas disparu. La presse écrite n'a pas disparu. La radio s'est adaptée à l'arrivée de la télévision. Est-ce que la télévision va arriver à s'adapter à l'arrivée d'Internet, du streaming et des autres formes de consommation d'images sur Internet, c'est l'enjeu, c'est une question qui se pose, c'est pas gagné, c'est pas perdu.
La télévision n'est pas morte, ce sont les modes de consommation qui changent. Merci, merci à vous deux, merci Philippe Lévrier, merci Isabelle Gaillard pour cette histoire de cette étrange lucarne, comme l'appelle souvent le canard enchaîné. Le mot de la fin revient à Serge Gainsbourg pour ce titre inédit, interprété qu'une seule fois pour le petit écran en 1974. Le mot de la fin, telle est la télé.
On me refile des vieux navets d'avant-guerre qui n'avaient guère de succès à leur époque, tellement c'était toc. Après quoi on me parle de bouquins que je lirais même pas au petit coin. Et Dieu sait si j'y passe des heures à rêvasser. Telle est la, telle est la, telle est la télé. Telle est la, telle est la, telle est la télé. Je me retrouve à l'assemblée, et comme j'ai droit qu'à la fermer, je coupe le son, je mets la radio, et je regarde le résultat. Fait qu'on dirait que c'est Dutronc qui vote la motion de censure. Au moins comme ça, ça me rassure. L'État, c'est moi, et moi, et moi.
Eureka, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre une activité normale. Merci à toute l'équipe d'Eureka, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Garance Prémahanlo, à la réalisation Félix Levaché, épaulé par Maria Pasquet, et à la technique aujourd'hui, c'était Cédric Fuentes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Eureka, et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.
Dans ma chambre, il y en a une qui m'a vu. Comme c'était la deuxième chaîne, elle a rougi. Telle est la...